Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h évidemment avec le journal dans quelques secondes, et à 19h15 le Club des Idées comme chaque soir. Ce soir on évoquera jusqu'à 20h l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing, disparu hier soir à l'âge de 94 ans. Avec lui, c'est une certaine idée de la France qui s'en est allée. Valéry Giscard d'Estaing restera comme l'un des grands réformateurs de la 5e République, l'émancipation des femmes, l'IVG, le droit de vote et la majorité à 18 ans notamment. Une certaine idée de l'Europe aussi. Alors que reste-t-il aujourd'hui de son héritage? On en parlera avec Alain Juppé, Frédéric Mitterrand et Jean-Louis Borloo notamment dans quelques minutes, et toutes les archives d'Europe 1. Le journal d'abord avec Isabelle Millet qui nous a rejoint. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
La vaccination sera gratuite pour tous. Le début de la vaccination est désormais une question de semaine.
Sécurité, transparence, gratuité et proximité. Le Premier ministre présente donc ce soir la stratégie de vaccination de la France.
Les choses se feront progressivement, en commençant par les populations vulnérables. 1 million de personnes vaccinées en priorité en janvier.
Facebook anticipe les fake news et les théories conspirationnistes autour de cette vaccination. Le réseau social s'engage à supprimer les fausses allégations.
Emmanuel Macron rendra hommage ce soir à 20h à Valéry Giscard d'Estaing, et c'est à suivre en direct ensemble sur Europe 1.
Les deux présidents qui ont souvent été comparés à juste titre, nous dira Aurélie Herbemont, et pas seulement pour leur jeunesse au moment de leur élection.
Au sommaire également ce soir, une nouvelle journée tendue au procès des écoutes avec une passe d'armes entre le haut magistrat Gilbert Azibert et le parquet financier.
Donald Trump se voit déjà candidat en 2024, preuve qu'il commence enfin à accepter sa défaite, nous dira Didier François. Et puis la Ligue Europa, Lille, Sparta, Prague, une place en 16e de finale. C'est jouable pour les nordistes. 5 minutes de jeu, 0 partout pour l'instant.
La météo avec Anissa, pas de remontée mécanique et pourtant la neige est bien là.
Oui, avec le département des Hautes-Alpes placé ce soir en vigilance orange neige. Demain, il va encore beaucoup neiger sur les reliefs. La journée de demain sera très agitée sur toute la France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ça y est, on y voit plus clair donc ce soir sur la stratégie vaccinale en France.
Qui sera vacciné en priorité? Comment et par qui? Combien de doses? Combien ça coûtera? Le Premier ministre a détaillé tout ça ce soir.
Le début de la vaccination est désormais une question de semaine. La vaccination sera gratuite pour tous. Tout le monde ne pourra pas se faire vacciner immédiatement. Dans son avis publié lundi, la Haute Autorité de Santé a établi un ordre très précis des populations à vacciner. Elle nous recommande de vacciner d'abord les personnes âgées en établissement, notamment les EHPAD. Enfin, comme l'a annoncé le président de la République, nous ouvrirons progressivement, à partir du printemps, la vaccination à l'ensemble de la population.
Alors Anne Le Gall, vous avez écouté l'intégralité de l'intervention du Premier ministre à propos de ces vaccinations qui représentent pour tous les Français un énorme espoir évidemment, et finalement ça va aller assez vite.
Exactement, l'autorisation européenne de mise sur le marché des vaccins BioNTech et Moderna pourrait intervenir fin décembre. La Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante, se prononcera ensuite sur cette validation, ce qui fait que les personnes les plus fragiles, les personnes âgées vivant en EHPAD et le personnel à risque y travaillant pourront commencer à être vaccinés dès le mois de janvier. Cela correspond à environ 1 million de personnes. Puis en phase 2, cette vaccination sera élargie à 14 millions de personnes à risque supplémentaire. Et enfin, à partir du printemps, la phase 3, cette vaccination sera élargie progressivement à l'ensemble de la population, en commençant par les plus de 50 ans. 10 vaccins sont attendus d'ici l'été. 6 contrats ont déjà été signés par l'Union européenne pour sécuriser les approvisionnements. 2 vaccins seulement seront disponibles a priori chez nous en janvier. Ceux qui utilisent la technique de l'ARN messager et qui doivent donc être conservés dans des super congélateurs. Il va falloir construire une logistique adaptée, a dit le Premier ministre. Mais nous avons acheté le matériel, nous serons prêts. La stratégie vaccinale sera présentée au Parlement et le médecin généraliste sera au cœur du dispositif, ainsi que le personnel de santé de terrain dans les territoires. Enfin, Jean Castex a insisté, cette vaccination se fera dans une totale transparence. Rien ne se fera au détriment de la sécurité sanitaire.
Merci Anne Le Gall, le Premier ministre qui appelle les Français à se faire vacciner. C'est un acte altruiste, dit-il, et il précise par ailleurs que pour les fêtes de fin d'année, pour Noël en particulier, ce serait bien de ne pas être plus de 6 personnes à table pour Noël, donc sans compter les enfants, 6 adultes.
Si l'arrivée de ces vaccins suscite énormément d'espoir, elle s'accompagne, on le sait également, d'une certaine défiance.
Simple sceptique ou adepte des théories du complot, Clément Le Saffre, pour couper court à ces théories farfelues, le réseau social Facebook annonce aujourd'hui la mise en place de mesures de modération.
Oui, à partir d'aujourd'hui, Facebook s'engage à supprimer toutes les publications qui mettent en avant de fausses affirmations à propos du vaccin contre le Covid-19. Ça concerne par exemple les messages alertant sur des micropuces 5G cachées dans les doses ou encore les théories fumeuses sur Bill Gates ou sur les essais cliniques non consentis. Par ailleurs, les publicités payées pour décourager les utilisateurs de se faire vacciner contre le Covid seront également supprimées. Le réseau social précise que cette nouvelle politique de modération va évoluer en même temps que les connaissances sur le vaccin avanceront. Pour faire le tri, Facebook prendra comme source les publications des agences officielles de santé publique. Et c'est une nouveauté, hein. Jusqu'ici, Facebook supprimait uniquement les fake news ayant trait au Covid-19 en lui-même, hein. Par exemple, les posts affirmant qu'il serait une création du lobby pharmaceutique. Le réseau social fait d'ailleurs savoir qu'il a supprimé 12 millions de publications de ce genre entre mars et octobre.
Précision signée Clément Le Saffre. Il était très grand, avec un nom très long. Valéry Giscard d'Estaing, VGE, c'était plus court. L'ancien président mort hier soir à 94 ans.
En 1974, il était devenu le plus jeune président de la République à 48 ans. Incarnation du centre droit, grand réformateur, il n'a pas hésité à faire bouger les lignes. Droit à l'avortement, divorce par consentement mutuel, abaissement de la majorité également à 18 ans, regroupement familial pour les migrants.
Emmanuel Macron a prévu de lui rendre hommage ce soir à 20h. On suivra ça en direct sur Europe 1. On a souvent comparé les deux présidents. Il faut dire qu'ils ont beaucoup de points communs, Aurélie Herbemont.
Et oui, si Emmanuel Macron aime se mettre dans les pas du général de Gaulle, il a sans doute plus à voir avec Valéry Giscard d'Estaing, à qui il a ravi le titre de plus jeune chef de l'État. Leur similitude ? Énarque, ministre de l'économie, libéraux, européens convaincus, tous deux entrés à l'Élysée sans grand parti installé. Valéry Giscard d'Estaing avec les Républicains indépendants, Emmanuel Macron avec En Marche. Les deux présidents partagent aussi le centrisme. Valéry Giscard d'Estaing venu de la droite, Emmanuel Macron venu de la gauche. L'ancien président voulait rassembler deux Français sur trois. L'actuel a théorisé le « et en même temps » et de droite et de gauche. Ils ont aussi en commun la même volonté d'apparaître résolument moderne, tout en appréciant le côté monarchique de la Ve République. Mais différence majeure entre les deux hommes, Valéry Giscard d'Estaing a occupé à peu près tous les mandats possibles, contrairement à Emmanuel Macron, qui ne revendique aucune filiation giscardienne. Il veut éviter de partager une chose avec son lointain prédécesseur. Valéry Giscard d'Estaing a été congédié par les Français au bout d'un mandat.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et on suivra donc en direct l'hommage ce soir d'Emmanuel Macron à partir de 20h. Claude Guéant, mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'était en 2007.
Oui, une mise en examen qui intervient alors que se tient en ce moment le procès de l'affaire dite des écoutes, dans lequel comparaît justement l'ancien président. Après une suspension brutale hier soir, l'audience a repris avec la fin de l'interrogatoire de Gilbert Azibert aujourd'hui. Mais la tension n'est pas redescendue pour autant, Gladys Laffitte, vous suivez ce procès pour Europe 1.
Non, au contraire, Gilbert Azibert était remonté contre les procureurs financiers, très excédé. Il a d'emblée expliqué à la vice-procureure qu'il ne répondrait pas à ses questions sur ses agendas. Si ça continue, je vais demander une suspension d'audience. Je commence à fatiguer. Voilà pour l'ambiance qui ne s'est pas vraiment améliorée. On a assisté à une joute entre magistrats, entre juristes même. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gilbert Azibert n'a pas mâché ses mots. Lorsqu'on a la prétention de poursuivre un ancien président, l'un des meilleurs pénalistes et modestement un magistrat, on a au moins la curiosité d'ouvrir le code pénal. Je ne relève pas du trafic d'influence. Je suis scandalisée par la légèreté du parquet et son incompétence. Alors rire dans la salle, remplie d'avocats venus soutenir leur confrère Thierry Herzog. Rire aussi sur le banc des prévenus, y compris derrière le masque de Nicolas Sarkozy. Mais aucun rire côté parquet qui répondra lors des réquisitions. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas si bon juriste que vous le prétendez, a asséné le procureur. Sans vraiment avoir ébranlé Gilbert Azibert, je vous retourne le compliment, a-t-il rétorqué.
Gladys Laffitte qui suit ce procès pour Europe 1. 15 ans de prison réclamés à l'encontre de l'ancien chirurgien Joël de Squarnec, accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Le verdict sera prononcé dans la soirée. Et puis dans le Lot, un chasseur en garde à vue. On le soupçonne d'avoir tué accidentellement un Britannique de 25 ans près du village de Calvignac. Un drame qui est intervenu lors d'une battue au sanglier.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite du journal à 19h10 et on part donc aux États-Unis comme promis, où à un mois et demi de l'investiture de Joe Biden, Donald Trump commence du bout des lèvres Isabelle à concéder sa défaite. Il pense même déjà au match retour.
Et vous savez quoi, on va en parler ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors battu hein, peut-être Trump, mais déjà prêt à rebondir.
Ah ben voilà, c'est à la limite de l'obsession, mais Donald Trump ne lâche pas l'affaire. Il ne peut pas se passer de la Maison Blanche et il a encore surpris son monde hier soir au cours d'une réception donnée justement dans les salons de la résidence officielle des présidents des États-Unis, cette espèce de meringue en grès du 1600 Pennsylvania Avenue de Washington, où il avait invité ses fidèles, son dernier carré. Il y a prononcé un discours de 46 minutes et il a lâché à cette occasion cette phrase sibylline: « Je viens de passer 4 années fantastiques, j'essaye d'en faire 4 de plus, et sinon, je vous reverrai dans 4 ans. » Alors, c'est évidemment une façon d'annoncer qu'il sera à nouveau candidat à la prochaine présidentielle en 2024. Mais c'est également une manière donc de reconnaître que Joe Biden sera bien adoubé la semaine prochaine par les grands électeurs et puis qu'il prendra ses fonctions présidentielles lors de son investiture le 20 janvier prochain. Et Donald Trump, eh bien, à ce moment-là, devra quitter ses fonctions, quitter la Maison-Blanche, mais surtout, il devra remettre à Joe Biden son compte officiel Twitter, le fameux compte POTUS, President of the United States, et ce qui semble être pour lui le renoncement le plus douloureux.
Bon, il y aura peut-être des primaires républicaines quand même d'ici 2024. En attendant, Donald Trump n'a pas pour autant concédé sa défaite.
Eh bien justement, on en vient à la question des primaires républicaines, parce qu'il n'a évidemment pas concédé sa défaite. Il continue de clamer qu'on lui a volé sa victoire, qu'il est victime d'une tricherie organisée à grande échelle. Alors, ce qu'il est en train d'admettre, c'est l'échec des procédures judiciaires lancées par ses avocats, puisque toutes les plaintes ont été rejetées, que ce soit dans des États démocrates, dans des États républicains, puis que même son propre ministre de la Justice a définitivement écarté, nié l'hypothèse des fraudes massives. Mais effectivement, Donald Trump relance l'offensive sur le terrain politique en utilisant à la fois son très bon score électoral malgré sa défaite, et puis ses derniers jours en tant que président pour, effectivement, vous avez raison, s'imposer à la tête du Parti républicain.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Et on notera que pour vous, la Maison-Blanche est une meringue. On va faire un saut, hein, le grand écart. On part tout de suite à Lille. Le foot, la Ligue Europa, Lille, leader de son groupe qui reçoit en ce moment le Sparta Prague. Ça se passe sous vos yeux, Sébastien Boé?
Oui, et c'est parti depuis 17 minutes ici au stade Pierre-Mauroy, 0-0 entre le LOSC et le Sparta Prague. Le LOSC qui peut décrocher dès ce soir son billet pour les 16e de finale de l'Europa League en cas de victoire face aux Tchèques. Des Tchèques que les Nordistes avaient battu 4-1 au match aller. Un match nul pourrait également suffire, mais pour ça, il faudrait que dans l'autre match du groupe, Milan ne batte pas le Celtic Glasgow. Des Lillois qui, pour le moment, réalisent un bon parcours en Coupe d'Europe. Ils sont leaders de leur groupe, le groupe H, mais paradoxalement, cela fait 14 matchs et 8 ans que Lille n'a pu remporter une rencontre de Coupe d'Europe à domicile ici au Stade Pierre-Mauroy, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Une série que les Nordistes aimeraient stopper également ce soir.
Notre rédacteur en chef, en tout cas, y croit. Merci Sébastien Boé, en direct du Stade Pierre-Mauroy. À 21h, Nice recevra le Bayer Leverkusen. Et puis sachez que la France affrontera la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Ce sera en octobre 2021. Le tirage au sort vient d'être effectué.
Bien, on a le temps d'en reparler d'ici là. Merci Isabelle. On vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h. La météo avec Anissa, qui nous annonce un temps froid et une vigilance, surtout dans les Hautes-Alpes.
Oui, ce département est effectivement placé en vigilance orange-neige. C'est à partir de cette nuit et demain toute la journée que la neige va tomber en abondance sur ce département des Hautes-Alpes, avec des cumuls importants qui, demain matin, vont rendre la circulation difficile. Donc, grande prudence si vous nous écoutez dans les Hautes-Alpes ce soir. Demain, il ne va pas neiger que dans les Hautes-Alpes, il va neiger également sur le Massif central et les Pyrénées, là aussi il va bien neiger. Cette nuit et demain, attention au vent sur la façade atlantique, il va souffler fort cette nuit à plus de 100 km/h. Sur les Alpes-Maritimes et la Corse, les pluies seront soutenues, accompagnées même de coups de tonnerre. Dans l'ensemble, vous l'avez compris, la journée de demain est agitée. Sur la région parisienne et le centre, le temps reste sec, il n'y a finalement que dans ces régions que le temps sera sec, avec quelques éclaircies. Partout ailleurs, c'est couvert avec des averses. En Normandie, vous aurez même droit au grésil demain. Les températures, moins 1 degré à Vannes. Elles sont un petit peu plus douces demain matin. On a moins de gelée. 5 degrés à Paris, 7 à Nice. Et puis, dans l'après-midi, nous avons des températures de saison. 5 à 15 degrés. 5 pour Belfort, 8 à Paris, 11 à Montpellier et 14 à Marseille.
Bon, belle ambiance ce vendredi donc sur la France.
C'est hivernal.
Merci Anissa. Belle soirée à vous
demain.
Et à demain. 19h15, dans quelques secondes, Valéry Giscard d'Estaing raconté par ceux qui l'ont côtoyé. Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, Frédéric Mitterrand seront avec nous notamment. D'abord, retour avec nos archives sur ce 19 mai 1974 quand Valéry Giscard d'Estaing remporte l'élection présidentielle.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Rémi Botsaron.
Bonsoir Julien.
On est donc le 19 mai 74, au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, et Valéry Giscard d'Estaing remporte cette élection.
Oui, et ce soir-là, c'est le ministre de l'Intérieur qui annonce les résultats. La victoire de Valéry Giscard d'Estaing est donc annoncée par Jacques Chirac.
Ont obtenu Monsieur Valéry Giscard d'Estaing 13 165 000 suffrages, soit 50,71%. Monsieur François Mitterrand 12 791 000, soit 49,28%.
Voilà le dénouement d'une campagne qui aura duré un peu moins d'un mois et demi, puisque les deux candidats s'étaient déclarés le même jour, le 8 avril 1974. 6 semaines de campagne donc marquées par le style VGE, une certaine forme de modernité inspirée, dit-on, de Kennedy, avec pour priorité la forme, l'image, la formule. Il y a notamment eu le fameux slogan « Giscard à la barre » imprimé sur des t-shirts, grand succès chez les jeunes militants. « Giscard à la barre », une formule qui rime, une formule qu'on retient, comme celle qu'il avait lancée aux Français à la veille de ce second tour.
Je souhaite bonne chance à la France pour que votre choix soit le meilleur pour elle. Bonne chance, la France.
Voilà, bonne chance à lui-même parce qu'il a donc été élu, mais de justesse.
Et oui, on a entendu le résultat, un peu moins de 51% des voix pour lui. C'est un peu plus de la moitié de la France qui fait la fête ce soir-là, notamment dans son fief de Chamalières, où l'on voit dans les reportages que la fanfare est de sortie pour une ambiance, nous dit-on, de 14 juillet. Et pendant ce temps, à Paris, dans un style un peu moins fanfaronnant, le nouveau président s'adresse aux Français pour leur dire, à sa façon, « Je vous ai compris ».
J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçus. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle, celle du rajeunissement et celle du changement de la France.
C'est amusant de voir que ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs aujourd'hui en 2020 dans les discours politiques. C'est mais c'est vrai qu'il y a deux mots-clés, changement et jeunesse.
Oui, deux mots qu'il martelait déjà pendant la campagne. Et si ça ne suffisait pas, il revient à la charge dans son discours d'investiture à l'Élysée, 8 jours après son élection.
J'entends encore l'immense rumeur du peuple français qui nous a demandé le changement. Et nous le conduirons en particulier avec sa jeunesse qui porte comme des torches, la gaieté et l'avenir.
La jeunesse qui sera concernée par sa première réforme majeure, l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans. Puis ce sera l'éclatement de l'ORTF, le libre accès à la contraception et bien sûr la légalisation de l'avortement, la loi Veil, tout cela. En 6 mois à peine, il faut dire qu'il avait prévenu les Français pendant la campagne. Vous serez surpris par l'ampleur et la rapidité du changement.
Oui, et puis le changement, c'est aussi une question d'image pour ce nouveau président.
Oui, et ça commence dès le jour de son investiture, avant le discours qu'on vient d'entendre. Il y a l'arrivée à l'Élysée. Ce 27 mai 1974, sous un soleil radieux, Valéry Giscard d'Estaing décide de ne pas arriver en voiture, mais à pied. Il remonte les Champs-Élysées d'un pas décidé, dans un simple complet veston, acclamé par des milliers de Français et accompagné par ses parents, dont on entendra le témoignage le lendemain sur Europe.
Ça me rappelle la libération de Paris, où j'étais aux Champs-Élysées avec lui, qui avait son brassard et ses filles. Et après ça, il a remonté les Champs-Élysées sur son char le 14 juillet. Et aujourd'hui, comme président de la République, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
C'est très beau. Il est dans la plénitude de ses moyens et dans la perfection de son âge.
À la plénitude de ses moyens et la perfection de son âge que le nouveau président tentera de faire apparaître sur la photo officielle, sur cette photo. Il ose esquisser un sourire, une petite révolution là aussi dans l'image du président.
Merci Rémi pour ces archives savoureuses.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, on continue d'évoquer la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing dans le Club des Idées, disparu hier à l'âge de 94 ans des suites de la Covid-19. Emmanuel Macron s'exprima dans une 42 minutes maintenant. On suivra cela ensemble en direct. Alors que reste-t-il de l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing aujourd'hui? Président réformateur, européen convaincu, qu'on présente souvent comme incompris par les Français. On en parle donc à 19h23 avec nos invités, l'écrivain et ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
Philippe Rath qui est également avec nous, bonsoir, vous êtes écrivain, auteur de Valéry Giscard d'Estaing, l'autre grand président aux éditions Odile Jacob. Et puis Jean-Louis Borloo nous rejoindra tout à l'heure, ainsi que l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Frédéric Mitterrand, d'abord, quel premier souvenir vous vient à l'esprit quand vous pensez à Valéry Giscard d'Estaing et quand vous avez appris hier sa disparition?
Bon, les souvenirs de citoyens, c'est l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée en marchant près des Champs-Élysées, enfin en allant à l'Élysée à pied, au milieu de la foule, et puis salué par ses filles. Et c'était une image tout à fait nouvelle et très, très sympathique. Ensuite, c'est effectivement toute la manière dont il a représenté la République sous un nouveau jour, la photo officielle faite par l'Artigue, qui était très différente de toutes les photos qu'on voyait.
En costume civil et non pas en apparat civil. De président de la République.
Oui, il y a un très joli reportage, je ne sais pas pourquoi il n'est pas paru, un très joli reportage où on voit comment l'Artigue et sa femme installent Giscard devant le drapeau, comment le drapeau tombe, ça ne marche pas, etc. Et on s'aperçoit que lui-même met la main à la pâte pour cette mise en scène de cette rénovation, en quelque sorte, de l'image de la République. Mais ça, bon, c'était un citoyen encore jeune qui regardait ça. Oui. Ensuite, moi, j'ai eu beaucoup d'autres images du président Giscard, et puis notamment lorsque j'ai eu le privilège de pouvoir faire deux longues interviews avec lui qui vont être diffusées bientôt sur la chaîne parlementaire.
Oui, vous avez fait 8 heures d'interview
avec lui. On a fait
8
heures de
lui.
Rush, oui, et on puis va... on a gardé 2 heures et demie.
On va y revenir parce que j'ai plein de questions à vous poser évidemment sur cet entretien et sur la perception que vous avez eue de sa pensée et aussi de son érudition, car c'était quelqu'un de particulièrement intelligent, dit-on. Alors, je voudrais qu'on revienne simplement sur sa trajectoire avant d'être président de la République. On en a peu entendu parler depuis hier soir. Il vient d'une famille bourgeoise, Valéry Giscard d'Estaing. Son père est inspecteur des finances, économiste. Il a été maire, grand officier de la Légion d'honneur. Valéry Giscard d'Estaing lui fera Polytechnique, l'ENA, l'inspection des finances, avant de s'engager au sein des armées. À 29 ans, il devient directeur adjoint de cabinet d'Édouard Faure. À 32 ans, il est nommé secrétaire d'État aux finances. De Gaulle le qualifiera d'ailleurs de son meilleur argentier. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à entrevoir ce destin qu'il peut avoir pour devenir président de la République. Il le verbalise d'ailleurs sur ses ambitions en 1962. Je vous propose de l'écouter.
D'abord, il y a une chose que je trouve très curieuse. C'est tous ces hommes politiques français qui n'ont pas d'ambition. Cela m'inquiète, car ils ne doivent pas être très sincères. Il n'y a personne qui, entrant à l'école de Saint-Cyr, n'ait un jour l'idée de commander les armées françaises. Il n'y a personne qui, dans une entreprise, ne souhaite et n'envisage plus ou moins d'en être un jour le directeur ou le directeur général. Il n'y a personne à Europe numéro 1 qui ne souhaite d'en devenir un jour le rédacteur en chef. Donc quand on est dans une filière, il est tout à fait naturel, en effet, d'envisager les étapes successives et, lorsqu'on est honnête, les plus hautes.
Voilà, Philippe Rath, il avait déjà cette ambition de devenir président de la République. Un destin français, titre aujourd'hui, par exemple, Le Parisien aujourd'hui en France.
Vous l'avez rappelé, Giscard d'Estaing vient de loin. Et il incarne en sa personne, au fond, à la fois l'avant et l'après de Gaulle. Il est le descendant d'une grande tradition parlementaire. Son arrière-grand-père avait contribué à fonder la Troisième République. Il est attaché de sa personne à la vie parlementaire dans laquelle il est rentré très tôt. Et en même temps, il incarne à un degré inégalé jusque-là, et depuis lors d'ailleurs, la technocratie du futur. Donc il est à la fois le passé et le futur, sous l'empreinte et la marque extrêmement forte du général de Gaulle, qui, vous l'avez rappelé aussi, a reconnu en lui quelqu'un à sa main, en quelque sorte. Quelqu'un qui savait tenir un budget, quelqu'un qui savait penser le développement économique et qui avait le souci ardent de l'avenir de la France.
Oui.
Et c'est le troisième point que Giscard a ajouté à ce passé et à cet avenir qu'il incarne, c'est-à-dire l'idée de reprendre au fond l'œuvre du général de Gaulle qui était de ramener la France des fonds dans lesquels elle avait sombré en 40 vers le premier rang, ou en tout cas un rang élevé, mais de le faire à l'aune du nouveau siècle.
Mais sa trajectoire se démarquera, on en parle dans quelques secondes après une première pause, du général de Gaulle évidemment, car il n'était pas gaulliste dans l'âme. 19h27, on se retrouve juste après la pause, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, on continue d'évoquer évidemment la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing dans le Club des Idées, disparu à l'âge de 94 ans, avec toujours l'écrivain et ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, avec l'écrivain et auteur d'une biographie sur Valéry Giscard d'Estaing, Philippe Rath, et avec également l'ancien Premier ministre Alain Juppé qui nous a rejoint, auteur de Mon Chirac aux éditions Thaïlandier. Bonsoir Alain Juppé.
Bonsoir.
Quel premier souvenir d'abord quand on évoque pour vous la mémoire de Giscard d'Estaing?
C'est le souvenir d'une campagne électorale, aussi curieux que ça puisse paraître, puisque nous avions fait campagne ensemble en 1989 pour les élections européennes. Il était tête de liste, bien sûr, et j'étais son second. Et nous avons vécu donc plusieurs mois ensemble en sillonnant la France. J'ai appris à le connaître à cette occasion, à voir bien sûr ce que tout le monde sait, c'est-à-dire l'extraordinaire machine intellectuelle qui fonctionnait de façon tout à fait impressionnante.
Oui.
Mais je l'ai vu aussi essayer, parfois avec maladresse, d'aller au contact des gens, d'aller à la rencontre des autres. Donc c'était parfois assez émouvant. Et puis, le sang-froid extraordinaire, le soir du résultat des élections, les premiers chiffres qui sortent des sondages sortis des urnes nous donnent un score assez limité par rapport à celui de Simone Veil. Et il me dit, tranquillement, j'étais dans son bureau avec lui devant les écrans de télévision, « Attendons, attendons. On a attendu, on a fait 28 et Simone Veil 8.
» Alain Juppé, vous avez déclaré « Giscard nous quitte et un siècle avec lui ». C'est la fin d'une certaine idée de la politique, c'est ce que vous voulez dire par cette phrase ?
Non, c'est pas la fin d'une certaine idée de la politique, c'est la fin du contexte dans lequel agissent les hommes politiques. On est aujourd'hui dans un monde radicalement nouveau, avec des défis qui ne datent pas d'hier, mais qui prennent aujourd'hui une actualité et une acuité qu'ils n'avaient pas du temps où Giscard était au pouvoir. Je pense bien sûr aux défis climatiques, mais je pense aussi aux défis terroristes, aux défis de l'islam extrémiste, etc. Donc on est dans un monde différent de celui qu'il a connu.
Oui.
Ce qu'il a essayé de faire, et qu'il n'a pas réussi véritablement à faire, du point de vue de la structuration du paysage politique, c'est de constituer cette grande force centrale dont, comme lui, je pense qu'elle était un peu la force principale dans ce pays. Alors, malheureusement, son antagonisme avec les gaullistes ne m'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Encore qu'il a essayé, j'évoquais cette liste commune de 1989. Oui. Je me souviens aussi de la période de préparation des élections de 93, où nous tenions ensemble, RPR et UDF, des états généraux de l'opposition. Et c'était assez savoureux, parce qu'à la fin d'une séance de travail, il fallait rendre compte. Et
oui.
Alors, le problème, c'était la prise de parole entre Giscard et Chirac.
Oui.
Je me souviens que parfois, ils lisaient chacun une ligne du communiqué final.
Alors justement, Alain Juppé, je voudrais vous entendre sur sa relation avec Jacques Chirac. Le 15 août 1976, son Premier ministre, qui est Jacques Chirac, lui remet la démission de son gouvernement en déclarant qu'il ne dispose pas des moyens pour mener sa politique. C'est d'ailleurs la seule fois dans l'histoire de la 5e que le divorce émane du locataire de Matignon. Et 5 ans plus tard, la direction du RPR donne pour consigne à ses troupes de faire voter Mitterrand au second tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing avait à l'époque, pour s'en assurer, appelé le standard du RPR et s'était fait passer pour un militant. Il nous l'avait raconté à notre micro quelques années plus tard. Écoutez-le.
Alors, j'ai eu une idée un peu bizarre. Hein. Je me suis dit de faire l'expérience moi-même. J'ai appelé. Alors évidemment, c'était un peu spécial. J'ai dit, voilà, j'appelle parce que je suis troublé. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Ah bon ? Ah bon ? Je dis, voilà, moi, je m'apprête à voter pour Giscard, parce que... Ah non, 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 non. Je dis, quand il ne faut pas voter... Ah, surtout pas ! Ah oui, non, non, surtout pas, ça. J'ai raccroché. Mais ça m'a fait une espèce d'impression humaine très, très forte, hein, de l'entendre.
Extrait du documentaire VGE, Le Théâtre du Pouvoir. Alain Juppé, c'est quand même un sacré sale coup que lui a fait à l'époque Jacques Chirac.
Écoutez, je pense que Giscard n'a pas appelé la bonne personne. Moi, j'étais au PC de campagne de Jacques Chirac. Si Giscard m'avait appelé, je lui aurais dit que j'allais voter pour lui au deuxième tour. Je vous rappelle que Chirac a dit aussi qu'à titre personnel, il voterait pour Giscard. Bon, je pense qu'on ne va pas remuer tout cela. L'antagonisme a été réel. Peut-être d'ailleurs a-t-on exagéré la détestation entre les deux hommes. On a beaucoup dit que lorsqu'ils siégeaient ensemble au Conseil constitutionnel, c'était des piques permanentes. Je pense qu'on a un peu exagéré. Il y a eu des divergences, des divergences de fond, des divergences de personnalité. Les personnalités de Chirac et de Giscard étaient profondément différentes. J'ai parlé de l'extraordinaire machine intellectuelle qu'était Giscard. Son problème, ce n'était pas le cerveau, c'était peut-être le cœur. Non pas qu'il n'allait pas, hein, mais curieusement, la phrase dont tout le monde se souvient, en 1974, « Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur », s'est un peu retournée contre lui, parce que chaque fois qu'il a pris des initiatives pour montrer qu'il était proche de Jean,
oui,
c'est apparu comme pas naturel, mais artificiel. Souvenez-vous, les éboueurs invités à petit-déjeuner, les dîners en ville, en famille,
oui,
l'accordéon, etc. Et ça, c'était une différence avec Chirac, parce que Chirac avait ce contact naturel et spontané. Voilà. Mais je pense que chez Giscard, il y avait une vraie sensibilité aussi. C'était sans doute un homme hypersensible. Et bon, mais il n'avait pas la manière de s'y prendre.
Oui, c'était aussi un grand réformateur. Vous restez, s'il vous plaît, avec nous encore quelques instants, Alain Juppé. Merci infiniment. Je voudrais faire réagir mes invités ici en plateau. Frédéric Mitterrand, c'était un grand réformateur. En moins de 2 ans de mandat, l'âge de la majorité est abaissé à 18 ans. La saisine du Conseil constitutionnel est élargie. L'ORTF est éclatée. Les femmes, évidemment, sont promues avec la dépénalisation de l'avortement et la loi Veil. C'est un tournant que prend la France sous sa présidence.
Oui, c'est un tournant et nous vivons aujourd'hui sur ses acquis. Et d'une certaine manière, ça s'est un peu retourné contre lui, dans la mesure où on a tellement l'habitude maintenant de vivre dans une société différente de celle qu'il a trouvée lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'on n'y fait plus attention.
Oui.
Et en vérité, bien des aspects de notre vie et bien des aspects du fonctionnement de notre société ont été changés et d'une manière évidemment positive, par lui. Mais c'est l'ingratitude du temps ou de l'histoire qui font que on n'y fait plus attention. Et, oui. Mais il y a un autre aspect aussi qui me surprend beaucoup dans tout ce que j'entends depuis hier, c'est qu'on n'insiste pas suffisamment sur l'amitié très très profonde qu'il avait avec Helmut Schmidt, le chancelier allemand. Et quand on parle de Giscard froid, hypersensible, mais n'arrivant pas à exprimer sa sensibilité, moi, j'ai pu assister, d'une certaine manière, à cette entente avec Schmitt, qui était un homme qui venait d'un milieu beaucoup plus populaire, allemand, socialiste, qui se fichait un peu du décorum.
Oui.
Et ces deux êtres-là, qui venaient de deux mondes différents, avaient véritablement une relation d'amitié.
Et ils ont relancé ensemble le couple franco-allemand qu'on connaît évidemment aujourd'hui. Alain Juppé, je vais vous entendre sur ce point dans quelques instants et sur aussi le réformateur qui a été Valéry Giscard d'Estaing. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite, dans quelques secondes.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on continue évidemment d'évoquer ce soir la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, dans le Club des Idées, 19h40. On attend évidemment l'hommage qu'on suivra ensemble avec cette allocution attendue d'Emmanuel Macron, le président de la République, dans 20 minutes à 20h. Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, est toujours avec nous. Alain Juppé, on évoquait à l'instant avec nos invités le grand réformateur qui a été Valéry Giscard d'Estaing. Ça a été peu dit depuis hier soir, mais c'était également, dites-moi si vous en êtes d'accord, un grand humaniste. Il avait accepté par exemple que la France accueille 128 000 boat people. C'est lui aussi qui en 1976 a décidé d'imposer à l'époque le regroupement familial par décret qui est aujourd'hui si décrié.
C'est vrai, mais c'est aussi lui qui a décidé d'arrêter l'immigration économique en 1974, au moment où la crise pétrolière a changé complètement la donne, et en particulier la situation de l'emploi dans notre pays. Non, mais son bilan réformateur est considérable. Il a fait bouger beaucoup de conservatisme. On n'a pas évoqué non plus sa réforme de l'ORTF et sa libéralisation du secteur des médias. Souvenez-vous, Chaban s'était cassé le nez sur l'opposition de Pompidou à propos de l'ORTF. Il a fait ça aussi. Mais là où je me sens le plus en harmonie avec lui, puisque je ne sais plus quel est celui de mes copains qui m'a dit tu es le plus giscardien des Chiraciens, c'est dans tout ce qu'il a fait en Europe. Il avait là une vraie conviction. Frédéric Mitterrand a rappelé son amitié très profonde et très, très, très intime avec Helmut Schmidt, mais elle s'est concrétisée par des actes. C'est la création des conseils européens qui sont devenus aujourd'hui l'élément essentiel de la gouvernance européenne, avec la Commission, bien sûr. C'est le serpent monétaire qui prépare l'arrivée de l'euro un peu plus tard. C'est l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, bien sûr. Et puis, quelque chose qui n'a pas marché, mais j'avais eu l'occasion de le revoir à ce moment-là, il s'y était investi fortement, c'est la Constitution de 2005.
Oui.
La Constitution européenne pour laquelle il avait fait un travail absolument formidable, en allant vraiment au fond des choses. Cette conviction européenne, il a amené sur la fin à avoir une vision de l'Europe peut-être un petit peu marquée par le passé plus que par l'avenir, à savoir le retour à l'Europe, à la petite Europe des six. Enfin, c'était quelque chose de très puissant et qui me semble aujourd'hui absolument essentiel. On voit bien que dans le monde dans lequel nous sommes, ou bien l'Europe devient une puissance actrice sur la scène internationale, ou bien nos pays seront les vassaux des grands empires qui nous entourent et qui progressent, eux.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, évidemment, Alain Juppé, parce que au-delà de l'Européen convaincu, j'entendais Jean-Louis Borloo qui disait ce matin, j'ai le sentiment que quelle que soit l'opinion qu'on ait, les dirigeants politiques de l'époque étaient des enfants de la guerre. Et je voudrais à ce propos vous faire partager une archive de Valéry Giscard d'Estaing qui va absolument dans ce sens quand il évoque ce 8 mai lors de l'armistice. Écoutez-le, c'était en 2014.
Le 8 mai, pour moi, c'est mouvant parce que j'étais sur un char en Autriche. Tout à coup, on dit, on s'arrête, c'est fini, c'est l'armistice. Donc on s'est arrêté, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient ? La constituante, l'année suivante, a dit, on va commémorer le 8 mai. Mais on va le commémorer le 8 mai si c'est un dimanche. Et si ce n'est pas un dimanche, on le commémorera le dimanche suivant. Parce qu'il ne faut pas ralentir la reconstruction de la France. Eh bien aujourd'hui, à l'heure actuelle, où la France a une croissance, hélas, proche de zéro, ça n'est pas raisonnable de chômer le 8 mai.
Philippe Rath, vous êtes écrivain, auteur d'une biographie sur Valéry Giscard d'Estaing. Il a fait la guerre, on l'a un peu oublié, mais il a fait la guerre, Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, il l'a fait d'ailleurs avec un mérite qui a été reconnu par des décorations dans l'armée de l'âtre. Et c'est une expérience qui l'a beaucoup marqué, effectivement. Et à la différence, vous le rappelez, il y a 5 grands présidents qui ont connu la guerre, pour l'avoir faite ou pas. Et les suivants, moins. Donc ça change les choses. Et je crois que c'est une expérience commune avec le général de Gaulle aussi, que d'avoir ça, ça compte aussi. Mais je pense qu'il partageait avec le général de Gaulle le sentiment qu'il y avait une certaine urgence à préparer la France à un avenir qui serait tout autre, très difficile, très exigeant, que nous n'étions plus une puissance entièrement autonome et souveraine, qu'il fallait s'adapter. Et le général de Gaulle disposait en propre, il le savait, d'une sorte de prestige et de capacité à promouvoir ce changement. Giscard savait qu'il arrivait aux affaires sans avoir ce lest personnel du fait de l'histoire. Oui. Et qu'il fallait pour ça le faire avec les Français, donc propager en France de la bonne intelligence, donc libéraliser, donc modifier les choses.
Frédéric Mitterrand.
Alors on dit toujours que Giscard avait un problème avec le peuple, mais c'est très très ambigu cette notation, parce qu'en vérité, il avait effectivement vécu très protégé jusqu'à la fin de ses études. Et poussé par l'ambition de sa mère, parce qu'en vérité, sa mère, dès qu'il était enfant, le voyait déjà président de la République. Mais il n'avait pas eu vraiment de contact avec des classes différentes de la sienne. Pendant la guerre, c'est tout différent. Il est avec des garçons qui viennent de partout. Et en plus, il risque vraiment de se faire tuer, parce que ce sont les derniers moments de la guerre. Et pendant ces derniers moments de la guerre, on sait à quel point les nazis et les soldats allemands étaient virulents. Et cette camaraderie a compté dans sa vie d'une manière essentielle. Il y est très fréquemment revenu. Et je suis sûr que dans sa recherche avec le contact de classe qui n'était pas celle de son origine ensuite, il y a eu cette expérience déterminante de la guerre.
Alors, réaction d'Alain Juppé qui est toujours avec nous dans quelques secondes. Et sur cette notion et cette approche de construction européenne post-Seconde Guerre mondiale. À tout de suite avec l'ancien Premier ministre.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h49, on continue d'évoquer évidemment la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing dans le Club des Idées jusqu'à 20h avec l'allocution du président de la République pour un hommage qui durera une dizaine de minutes et qu'on suivra ensemble en direct donc dans Europe Soir. On est toujours avec l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Alain Juppé, je voulais vous faire réagir à ce qui a été dit juste avant la pause et à cette idée de construction européenne de ces enfants qui ont connu la guerre, j'allais dire, parce que Valéry Giscard d'Estaing, c'est vrai, avait un destin européen, car il avait fait lui-même la guerre, on a entendu sa déclaration et son émotion au moment de l'armistice le 8 mai 45.
Oui, c'est vrai. Et ce que disait Jean-Louis Borloo ce matin sur votre antenne est parfaitement exact. D'ailleurs, je me pose moi-même la question, quand il m'arrive de parler de l'Europe devant des étudiants ou des lycéens et que je leur dis « l'Europe, c'est la paix », je vois parfois un petit voile d'incompréhension sur leur visage parce que ça n'a pas la même signification pour leur génération que pour les générations précédentes. Ça a été vrai de Gaulle et Adenauer. Ça a été vrai, Mitterrand et Kohl, on se souvient de la fameuse photo où ils se tiennent la main, Verdun, c'est vrai de Giscard et de Schmitt aussi. Alors la grande question aujourd'hui, c'est de se dire que l'Europe ne peut plus vivre exclusivement sur cet héritage-là, parce qu'avec le temps, il ne s'agit pas de l'oublier, bien entendu, mais il n'a plus la même valeur mobilisatrice que celle qu'il a pu avoir. Et la grande question que Giscard a essayé d'aborder aussi, en travaillant sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est de savoir ce qui nous unit vraiment aujourd'hui. C'est un passé, bien sûr, mais c'est aussi des conditions présentes. Et la grande question qui se pose aujourd'hui sur l'avenir de l'Europe, c'est de savoir si nous partageons encore les mêmes valeurs, qui sont les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'état de droit, les valeurs de l'égalité entre les hommes et les femmes, valeurs qui sont parfois contestées à travers le monde. Mais le problème n'est pas de savoir si on va les vendre ailleurs, le problème est de savoir si on y croit nous, si on est prêt à la défendre pour nous. Et je crois que c'est une question fondamentale qui se pose aujourd'hui et qui peut être le ciment d'un nouvel élan européen. Peut-être Giscard aurait-il contribué avec le talent qui était le sien pour expliquer les choses, parce que j'ai parlé de son intelligence, il avait aussi un grand talent pédagogique. Et en écoutant, on se disait qu'on était aussi intelligent parfois.
Certains comparent Valéry Giscard d'Estaing parfois à l'actuel président Emmanuel Macron. Ils ont tous les deux une fougue, une jeunesse. Ils ont tous les deux été les plus jeunes présidents de la Ve République. Est-ce que vous partagez l'idée que Emmanuel Macron s'inscrit dans l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing?
Et mon statut actuel m'interdit de porter des jugements sur politiques vivants. Donc voilà, je vais écouter tout à l'heure avec vous, enfin dans un instant, l'hommage de Macron, du président Macron, pardon, à Valéry Giscard d'Estaing. Donc je verrai à ce moment-là quelles sont les affinités qu'il exprime.
Je vous pose la question parce que c'est vrai que Valéry Giscard d'Estaing a laissé dans son testament, et c'est ce que nous a rapporté aussi ses proches et sa famille, qu'il ne souhaitait pas d'obsèques nationales. Qu'est-ce que ça raconte du personnage Valéry Giscard d'Estaing par rapport à, évidemment, ce qui s'est produit pour la mort de Jacques Chirac?
Je ne sais pas répondre à cette question parce que je n'étais pas vraiment un intime de Valéry Giscard d'Estaing, donc je ne sais pas quelle a été sa motivation. Bon, je pense qu'en toute hypothèse, je ne sais pas ce que décidera le président de la République, mais il serait utile et tout à fait normal que la nation lui rende hommage.
Bien, message entendu. Merci infiniment Alain Juppé d'avoir été ce
soir
en direct et on va suivre dans quelques instants évidemment la prise de parole et l'allocution du président de la République, Frédéric Mitterrand.
Là, sur les obsèques, en petit comité avec la famille seulement, j'ai une observation à faire, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais le président Giscard d'Estaing a été absolument bouleversé par la mort de sa fille Jacinthe, qu'il aimait énormément. Jacinthe, c'était celle qui était sur les affiches avec lui, ses autres enfants aussi. Il aimait ses enfants de la même manière, tous. Mais la mort de Jacinthe, décédée d'un cancer il y a 2 ans, est quelque chose qui l'a absolument bouleversé. Et pendant cette période-là, je crois qu'il s'est encore un peu plus pénétré de quelque chose qu'il avait de toute façon en lui depuis le début, de la vanité des choses humaines, de la vanité de ce après quoi on court dans sa vie active, c'est-à-dire la gloire, la reconnaissance, etc. Et il s'est, non pas replié, mais il a vécu d'une manière encore plus intense sa vie familiale. Et je pense, franchement, qu'au contact de ce drame épouvantable que fut pour lui la mort de sa fille, il a souhaité d'une certaine manière la rejoindre ou lui être fidèle en ayant des obsèques à la mesure de l'amour qu'il avait pour sa fille. Je le crois profondément. Et à côté de ça, qu'est-ce que ça vaut, la gloire nationale, toutes ces choses-là?
Et on apprend à l'instant que les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing auront donc lieu samedi à Autun, dans le Loir-et-Cher, avec sa famille et ses proches.
Philippe Rath. Il y a quelque chose de gaulliste aussi.
Oui, on pense forcément justement au fait que le général de Gaulle repose dans la même tombe que sa petite-fille Anne. Oui. Et on pense aussi au souhait qui a été le sien d'être inhumé à Colombey, parmi les gens de Colombey, sans pompe nationale, ce qui n'a jamais empêché, bien entendu, qu'on fasse à Notre-Dame, et dans toutes les formes qui convenaient, un hommage à sa mémoire, naturellement. Et je pense que dans l'esprit de Giscard d'Estaing, il y a peut-être cette volonté de revenir à une sorte d'humilité authentique, pour le coup, et non pas apprêtée ou préparée ou recherchée, dans un but qui, je crois, toute sa vie était celui de la bonne intelligence. On le sait, très intelligent, mais la bonne intelligence, c'est autre chose. C'est la bonne entente entre les Français, entre la France et les Européens dans le monde.
Alors, vous restez avec nous, 19h55. Dans quelques minutes maintenant, moins de 5 minutes, on suivra ensemble l'allocution du chef de l'État qui va rendre hommage à 20h précise à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. A tout de suite.